Chapitre 3. L'homme ordinaire est un ange déchu. La graine du mal semée par le diable. De l'homme ordinaire, la terre n'a rien de bon à attendre. Il est donc nécessaire pour le bien de la terre, du système solaire, de toute la galaxie, d'arracher cette ivraie qu'on appelle l'homme, avant qu'elle n'ait envahi tout l'univers. La fin des temps. Cité unifiée de Nilopa. Nous, les fouineurs de Paris, avons arrêté et interrogé plus de 1000 suspects. Nous avons rapidement dû nous rendre à l'évidence. Ceux-là, des plombeurs, des révoltés, des délinquants sans envergure, n'avaient rien à voir avec les ombres, dont les attaques se multipliaient. Pressés par notre hiérarchie, nous avons oublié nos individualités, nos rivalités, nous nous sommes répartis par petits groupes pour enquêter sur les différents mouvements plus ou moins apocalyptiques qui fleurissaient dans Nilopa depuis une vingtaine d'années. On ne comptait plus les pseudo-prophètes qui appelaient sur les cités unifiées, ces nouvelles Sodome et Gomorre, le feu de la colère divine. Ces dingues avaient peut-être trouvé le moyen d'accomplir eux-mêmes leurs promesses. Théodore s'engouffra sans frapper dans le réduit meublé d'une table et d'une chaise où Ganesh s'était installé. Il avait besoin d'un refuge et c'était la seule pièce disponible dans le central. Une bouilloire sans fil, une antique théière métallique, deux tasses ébréchées, une brique de lait, un paquet de sucre et des sachets de thé à la cardamome fournis par sa mère jonchaient la table. « J'ai peut-être déniché une piste intéressante. Tu viens avec moi ?» Ganesh leva sa tasse, qu'il venait tout juste de remplir. « Je finis mon chai. On ne prévient pas les autres du groupe ?» Théodore demeura quelques instants parfaitement immobile, sans doute concentré sur le murmure de sa biopuce. « Pas le temps. Pas envie plutôt, non ?»« D'accord, j'ai jamais aimé travailler en groupe. Ils vont te remonter les bretelles là-haut. Il y a bien longtemps que les bretelles n'existent plus. » De toute façon, je suis fouineur troisième grade. Ils peuvent pas me virer comme ça. Ganesh trempa ses lèvres dans le chai encore brûlant. C'est quoi ta piste, Théo? Ton plombeur. Il a bien dit qu'il connaissait les ombres, non? Il aurait dit n'importe quoi pour se donner de l'importance. Théodore marqua un nouveau temps de silence. Ganesh but une gorgée de thé, sans prêter attention à l'activité sous-jacente de sa propre biopuce. J'ai interrogé la base de données, reprit Théodore. J'ai consulté les archives de surveillance vidéo, j'ai pu reconstituer ses déplacements des 15 derniers jours. J'ai fait la même chose avec une dizaine d'autres plombeurs récemment arrêtés. Et je suis tombé sur une coïncidence plus que troublante. Ces gars-là ont tous séjourné plus ou moins longtemps dans le même pavillon, situé dans le quartier de Maison Alfort, 25e arrondissement. De fil en aiguille, j'en suis arrivé à une organisation secrète et charmante, appelée la fin des temps. Comment tu as eu le tuyau ? Un fouineur, ça fouine. Dépêche-toi de finir ton satané thé. Je te raconterai ça en route. Et n'oublie pas ton taz. Ces types-là ne sont probablement pas des enfants de cœur. Travailler en groupe présentait certains avantages. Nous pouvions, en interconnectant les puces, mettre en commun les données et former ce que nous appelions une mêlée. L'opération n'étant pas anodine, nous évitions d'y recourir trop souvent. Elle provoquait chez certains fouineurs des perturbations psychologiques qui pouvaient dégénérer en schizophrénie. Théodore, lui, faisait partie des solitaires. Il affirmait que l'esprit était l'ultime sanctuaire, le trésor caché des contes, et il veillait sur sa liberté intérieure avec la même jalousie que les chrétiens de la deuxième réforme sur la virginité de leur fille. Niveau de pollution 4, niveau de pollution 4, vent nul, temps sec. Ne vous déplacez qu'en cas d'absolue nécessité. Je répète, ne vous déplacez qu'en cas d'absolue nécessité. En sortant du métro, guidés par les biopuces, ils avaient emprunté une succession de rues bordées de pavillons nichés dans leurs écrins de verdure. Une odeur indéfinissable imprégnait l'air chaud et sec de ce début d'automne. Ils ne croisèrent que deux femmes qui promenaient en bavardant leurs chiens modifiés au pelage scintillant. Le quartier de Maison Alfort ressemblait aux petites villes tranquilles qu'on pouvait apercevoir dans les films d'avant les cités. Les adeptes de la fin des temps ont créé un réseau parallèle qui échappe à tout contrôle, fit Théodore. Enfin, qui échappait à tout contrôle. Comment t'as appris son existence? Je me suis demandé ce qui pouvait bien se tramer dans ce pavillon, et j'ai lancé ma biopuce à la recherche des réseaux parallèles. Ils laissent tous des traces, même avec leur système de brouillage ou de camouflage, d'infimes perturbations électriques. La biopuce a ramé pendant un moment avant d'en repérer et d'en décoder une bonne vingtaine, presque tous inoffensifs. Jeux interdits, sites de rencontres, échangismes, microtrafic. Et puis j'ai découvert que le pavillon abritait une nouvelle religion apocalyptique, appelée la fin des temps. Une secte radicale qui appelle à la disparition pure et simple de l'espèce humaine. Elle recrute des plombeurs pour commencer le travail. C'est la piste la plus intéressante, et de loin, que j'ai dénichée. Les paroles de Théodore modifiaient en permanence les données fournies par la biopuce de Ganesh. « Pourquoi tu n'as rien dit à la hiérarchie ?» Théodore balaya l'air de ses mains. « Elle aurait été capable de tout foutre en l'air !» Il lança un regard par-dessus son épaule et baissa le son de sa voix. « Certains de nos supérieurs appartiennent à des, disons, organisations pas très claires. Tu as des preuves de ce que tu avances ?»« J'ai mené mes propres enquêtes pour savoir à qui j'avais affaire. » J'en ai déduit qu'il valait mieux garder certaines informations pour soi. Si tu veux être un bon fouineur, Ganesh, apprends à ne faire confiance à personne. À personne. Pas même à toi, Théo ? Théodore sourit avant de répondre. Pas même à moi. Surtout pas à moi. Un sacré vent de panique a soufflé sur la mairie de Paris, comme, je suppose, sur les mairies de Londres et de New York. Des nouvelles alarmantes nous parvenaient de l'organisation des cités. Le phénomène des ombres n'était pas circonscrit à Nilopa. Il s'étendait à toute la planète et sapait les fondements même des cités unifiées. On les avait crues isolées du monde extérieur, inviolables. Elles n'étaient plus capables d'assurer la sécurité et la tranquillité de leurs habitants. Elles étaient profanées, pour la première fois de leur existence. Et les mers s'agitaient comme des insectes prisonniers d'un bocal en verre. Alaric Brognier, le maire de Paris, fixait son interlocuteur avec une certaine répugnance, qu'il s'efforçait de masquer sous des dehors impassibles. Caton était arrivé par la porte dérobée dont trois autres personnes seulement connaissaient l'existence. Difficile de décrire Caton. Il avait quelque chose de l'un de ces personnages de cire à jamais figés dans les alcôves de la maison Grévin. Son visage et son crâne lisse n'offraient aucune aspérité, aucune prise à laquelle se raccrocher. Il avait sans doute abusé des corrections génétiques, à moins encore qu'il n'ait eu recours aux archaïques techniques de remodelage plastique. Le maire invita le visiteur à s'asseoir sur l'un des deux fauteuils qui faisaient face à son bureau. Les adjoints et conseillers avaient vidé l'immense pièce de l'hôtel de ville une dizaine de minutes plus tôt. Des images et des statistiques défilaient sur les écrans verticaux pour l'instant silencieux. « Vous m'aviez promis des résultats rapides, Caton !» attaqua Alaric Brognier. J'ai obtenu un report de la prochaine assemblée municipale de New York pour nous donner un sursis. Le problème posé par les ombres est complexe. Plus difficile à résoudre que prévu, monsieur. La voix de Caton était parfaitement assortie à son apparence, froide, dénuée de la moindre inflexion, de la moindre émotion. Je ne vous ai pas nommé à la tête du corps des fouineurs pour résoudre des problèmes faciles, Caton. Ne me faites pas regretter mon choix. Le maire eut la désagréable impression que ces mots n'avaient aucun impact sur son interlocuteur. Londres, New York et d'autres cités unifiées rencontrent les mêmes difficultés. « Nous n'allons tout de même pas attendre les bras croisés que ces foutues ombres aient massacré la population entière de Nilopa !»« Nos fouineurs travaillent jour et nuit, monsieur. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire de plus. » Alaric Brognier se leva et se planta devant un écran, dont il fixa quelques instants les images. Les ombres occupaient désormais plus de la moitié du temps des chaînes continues d'information. « Je vous demande justement de faire plus !» reprit-il sans se retourner. « On m'a signalé une émeute sanglante dans le Bronx, à New York, une autre dans l'East Side de Londres. Les plombeurs se multiplient. À ce train-là, les forces de l'ordre seront vite débordées, et les gens eux-mêmes se chargeront de finir le travail commencé par les ombres. Où en êtes-vous exactement ?»«
Au même point qu'au début, monsieur. »
Le maire pivota sur lui-même et enfonça ses yeux dans ceux, gris et neutres, de Caton. « J'ai une conférence de presse dans 3 minutes. Les médias vont m'éreinter. Ne me dites pas que vous n'avez toujours pas trouvé d'indice. » Caton prit tout son temps pour répondre. Alaric Brognier se demandait de plus en plus souvent si le responsable de la sécurité de Paris ne jouait pas avec lui comme un chat avec une souris. « C'est pourtant la vérité, monsieur. Nous avons fouillé chaque centimètre carré de chaque pavillon. Chaque brin d'herbe, chaque bout de trottoir. Incompréhensible. D'habitude, les assassins laissent toujours une trace de leur passage, même infime.
L'incompréhensible n'existe pas. Il n'y a que des incompétents. »
Caton demeura impassible.
disant alors que nous avons atteint les limites de notre compétence.
C'est ennuyeux pour vous et pour vos hommes. Déjà que la police et les autres administrations nous reprochent de vous favoriser.
Mes hommes ont toujours fait leur part de travail, monsieur. Le maire se rapprocha du fauteuil de Caton, espérant sans doute donner davantage de poids à ses propos.
Ils risquent de perdre l'estime de la population s'ils ne réussissent pas à arrêter les ombres. Et moi, je ne pourrai pas défendre votre budget à la prochaine assemblée municipale.
Ce qui nous laisse encore
6 jours, pas un de plus,
l'interrompit Alaric Brognier.
Je pars bientôt à New York pour un conseil extraordinaire avec les maires de Londres et New York. Vous ne m'accompagnerez pas, vous avez nettement mieux à faire. En revanche, 2 de vos hommes viendront avec moi. Ils pourront échanger leur point de vue avec les fouineurs des autres villes.
Comme vous voudrez, monsieur.
On frappa avec insistance à la porte. Une jeune femme, vêtue d'un tailleur chiné rétro, s'introduisit dans la pièce sans attendre l'invitation du maire.
« La presse vous attend, monsieur, »
déclara-t-elle après avoir lancé un coup d'œil intrigué à Caton.
« Je vous préviens, ils ressemblent à des chiens attendant la curée. Débrouillez-vous pour les calmer, Odine. J'arrive tout de suite. »
Alaric Brognier se tourna vers Caton et ajouta à voix basse
« 6 jours. Il me faut des résultats avant mon retour de New York. Compris ?»
Caton se fendit d'un léger hochement de tête.
« Parfaitement, monsieur. »
Le pavillon était une copie conforme des autres habitations du quartier, avec son jardin parfaitement entretenu, sa façade blanche, son toit filtrant et ses vitres occultantes.
« L'antre du prophète. » murmura Théodore.
Tas en main, Ganesh.
2 individus détectés.
Ma biopuce m'indique qu'il n'y a que 2 personnes à l'intérieur,
souffla Ganesh.
Te fie surtout pas aux apparences. S'ils ont réussi à monter un réseau parallèle, ils ont très bien pu brouiller les capteurs.
Ces gens-là sont des extrémistes froids, déterminés, 10 fois plus dangereux que les plombeurs.
S'ils sont vraiment les ombres, comment tu expliques les vagues de meurtres dans les autres cités unifiées?
Théodore haussa les épaules.
Ils ont peut-être réussi à créer une organisation intercitadine qui échappe à la surveillance des satellites.
Probabilité très faible.
Peu probable.
Théodore lança un petit sourire ironique à son équipier.
Ma biopuce fournit quasiment les mêmes statistiques que la tienne. La meilleure façon de le savoir, c'est d'arrêter leur prophète et de le passer à la moulinette. Allons-y. Je m'occupe de la porte de devant et toi, de la porte de derrière. Ta biopuce la déverrouillera.
Et s'ils ont ajouté une barre ou un verrou manuel, tu la défonces à coups d'épaule, tu te démerdes, quoi.
Si tu n'y arrives pas, tu me préviens, on fera une mêlée.
Je croyais que tu ne supportais pas qu'on...
Pas avec n'importe qui, c'est vrai. Mais tu n'es pas n'importe qui, Ganesh, tu es mon filleul. Et puis je ne suis pas à une contradiction près.
Je te laisse une minute pour faire le tour de cette baraque. Après, j'entre en action.
Fais gaffe à toi.
T'inquiète pas. Il n'est pas encore né celui qui fera mordre la poussière au vieux Théodore.
Ganesh contourna le pavillon. La façade arrière donnait sur un autre jardin, peu profond et moins bien entretenu. Un hélicoptère traversa en grondant le ciel de Maison Alfort. Ganesh suivit machinalement son vol du regard. Il lui arrivait certains soirs de distinguer les reflets des filtres tendus comme un gigantesque filet à 5 kilomètres de hauteur. L'hélicoptère disparut, en abandonnant derrière lui une trace blanchâtre, dispersée par le vent.
Détection du système de sécurité. Estimation pour l'ouverture des portes. Moins de 20 secondes.
Toujours que 2 personnes dans la maison?
Un homme, une femme.
C'est à la densité musculaire qu'on peut identifier le sexe?
Identification par numéro de biopuce.
Plus fiable, évidemment. Voilà la porte. Déverrouillage.
Déverrouillage en cours. 3 secondes.
Un déclic retentit. Ganesh tourna la poignée de la porte, mais elle refusa de s'ouvrir.
Merde, elle veut pas s'ouvrir.
Verrou manuel.
Peut-être qu'en cassant la vitre,
il lança un regard derrière lui avant de donner un coup de crosse de son tasse dans la vitre au-dessus de la poignée. Par chance, le verre, ancien, n'appartenait pas à la catégorie des nanomatières indestructibles. Craignant que le bruit ne donne l'alerte aux occupants du pavillon, il dut s'y reprendre à 3 reprises pour qu'il se fendille, puis qu'il se brise. Il glissa la main par la brèche. Ses doigts palpèrent un verrou métallique dont il releva le loquet et qu'il fit coulisser dans les crampons. Il entrebâilla la porte pour se glisser dans le pavillon, entra dans une petite pièce aux allures de buanderie, se figea, tout sens aux aguets. Crut que les occupants des lieux étaient lancés dans une conversation animée, avant de se rendre compte qu'il s'agissait de spots de publicité.
Détection d'un leurre informatique.
Ça veut dire qu'ils sont sans doute plus de deux là-dedans.
Ganesh se souvint des paroles de Théodore dans le métro. On ne sait pas grand-chose des adeptes de la fin des temps. Ils sont apparus quelque temps avant les premières attaques des ombres, une coïncidence troublante, non? Mais crois-moi, ce ne sont pas les 12 illuminés inoffensifs le plus souvent associés à ce genre de croyances. Ils n'attendent pas l'apocalypse, ils essaient de la provoquer, par tous les moyens. Ils sont des ombres en un sens, des semeurs de mort et de destruction, des adversaires de la cité unifiée.
Ganesh perçut des bruits de voix qui n'émanaient pas des écrans. Il passa dans une deuxième pièce, une cuisine déserte et visiblement jamais utilisée. Un écran vertical occupait l'un des murs et déversait un déluge d'images et de sons syncopés. Il se rapprocha d'une porte entr'ouverte qui donnait sur le salon. Aperçut par l'entrebâillement des silhouettes assises et tournées vers un homme debout, vêtu d'un strict costume noir.
« Putain, ils sont plus de 50 là-dedans !»«
62 personnes détectées, 56 adultes, 6 enfants, biopus crypté. »«
L'homme ordinaire !» « L'homme qui ne craint pas la colère de Dieu !»
vituperait le prêcheur. Ses auditeurs ponctuaient chacune de ses phrases d'exclamations plus ou moins sonores.
« Cet homme, frère, est condamné à disparaître à jamais. Non seulement sa chair, son sang, mais aussi et surtout son essence, son principe, son âme. Le Seigneur est sur le point de renier ses enfants humains, sauf ceux qui, comme vous, frère, se charge d'exécuter ses divins plans. C'est à nous, frères, qu'il revient de rendre à la terre sa pureté originelle. »
Ganesh revint dans la buanderie. La voix du prêcheur et les psalmodies des fidèles s'estompèrent.
« C'est le leurre informatique qui t'a empêché de les détecter ?»«
Présence de brouilleur. » »« Je ne vois pas Théo. Il est entré dans cette maison pourtant, j'en suis certain. » »«
Demande d'autorisation de mêler. » »« Demande d'autorisation de mêler. »
Théo ?
Demande du fouineur troisième grade Théodore Bernier.
Accordé.
Mêlée effectuée.
Ganesh perçut soudain à l'intérieur de lui des murmures étouffés, des bruits confus, impossibles à identifier. Sa vue se brouilla. Il eut l'impression d'être transporté dans un autre endroit.
Qu'est-ce que... Je vois trouble.
Mélange des données, sur impression des perceptions relayées par la biopuce du fouineur Théodore Bernier.
Des formes apparurent, une galerie, une voûte en pierre, des silhouettes dans la pénombre, comme si les occupants du pavillon s'étaient réfugiés dans des sous-sols, des catacombes ou des souterrains. Déstabilisé, Ganesh se demanda d'abord s'il n'était pas en train de devenir fou, puis se frotta les yeux pour bien s'assurer qu'il n'avait pas bougé de la buanderie. « On n'a pas la possibilité de parler avec Théo, de déclencher son endophone ?»«
Endophone inactivé. » »«
Ça veut dire que...
Hey »
Un homme s'engouffra dans la buanderie, brandissant un pistolet. Ganesh hésita une fraction de seconde, pris entre deux mondes. Il eut le réflexe de se jeter en arrière, juste avant que l'homme ne presse la détente. La balle traversa un pan de sa veste. Il tomba sur le dos. Le choc lui coupa le souffle. Il roula sur le carrelage. Une deuxième balle siffla près de sa tête. L'homme poussa un cri de dépit. Ganesh plaça le tas au-dessus de sa tête, interrompit sa roulade pour viser son agresseur. Son index s'enfonça sur la détente. Le TAS vomit un rayon lumineux qui frappa sa cible en pleine poitrine. La décharge paralysa les centres moteurs de l'homme, qui lâcha son arme avant d'osciller sur lui-même et de s'effondrer sur le ventre. Ganesh se releva, reprit son souffle et ses esprits, les yeux braqués sur la porte d'entrée, prêt à faire feu au moindre mouvement suspect. Il a son compte pour deux bonnes heures. Il a bien failli me descendre. Où a-t-il bien pu dénicher ce flingue ?
Trafic d'armes récemment découvert dans les quartiers est de Paris.
Peu importe. Ils ont emmené Théo dans un labyrinthe souterrain et il faut le sortir de là.
Combien de temps pour avoir des renforts ?
Consultation du central.
Temps estimé 16 minutes.
Pas le temps d'attendre. Essayons de trouver l'entrée de ce foutu labyrinthe.
Entrée localisée.
Ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, ce n'est pas toujours la vérité. La vérité se tient au-delà, dans le cœur du silence, là où rien n'est manifesté, là où les sens ne peuvent pas être trompés. Dents de rat, clan du haut lieu. Pays hors site.
Naya se débattit.
mais son agresseur lui enfonça le canon de son pistolet mitrailleur dans la bouche, pour la contraindre à rester immobile. Le fer lui cogna sur les dents et lui racla le haut du palais.
« Laisse-toi faire, petite pute, et peut-être que je t'épargnerai. »
L'homme soufflait comme un bœuf et continuait tout en parlant de lui retirer ses vêtements. Ses yeux brillants semblaient sur le point de jaillir hors de leurs orbites et des fentes de la cagoule. Elle était maintenant pratiquement nue, offerte, en proie à des spasmes qui lui contractaient la poitrine et le ventre. Il ne l'épargnerait pas. Ce genre d'homme ne connaissait pas la pitié. Naya fut envahie d'un grand froid. Personne ne lui viendrait en aide. Son corps pourrirait dans le fouillis végétal recouvrant les ruines de l'ancienne cité. Le tueur dégrafa les boutons de son pantalon, rendu fébrile par le désir et les saloperies chimiques. Puis, il pesa de tout son poids sur elle, et elle sentit à l'entrée de son ventre son soc aussi dur, aussi blessant que le canon du flingue dans sa bouche. Elle voulut hurler. Aucun son ne franchit le seuil de ses lèvres. L'homme émit un grognement, puis, tout à coup, alors qu'il donnait le premier coup de rein pour la pénétrer, un coup sourd retentit. Il se figea, se redressa, oscilla un petit moment au-dessus d'elle, puis s'effondra comme une masse sur le côté. Elle distingua alors la serpe profondément enfoncée dans sa nuque, sous la cagoule. Puis en arrière-plan, une silhouette, des tissus enchevêtrés servant de vêtements, des cheveux longs, une barbe clairsemée, des yeux qui la fixaient avec inquiétude.
Nous, membres du haut lieu, prononçons à l'âge de 18 ans le serment solennel de neutralité et restons à l'écart des guerres qui opposent les clans du pays Orsite. Nous avons jadis tenté de mettre fin au conflit, pensant que les hommes devaient faire preuve de solidarité pour augmenter leurs chances de survie dans un environnement hostile. Mais les autres ont refusé de nous écouter. Les instincts, ces vieux démons qui ont mené l'ancienne civilisation à sa perte, ont repris le dessus. Il existe sans doute une malédiction humaine, voulant que même dans les situations les plus désespérées, les hommes ne songent qu'à leurs petits intérêts. La guerre terrible qui avait ravagé la Terre aurait dû nous enseigner une autre façon de regarder le monde. Elle n'a fait que planter en nous de nouveaux germes de discorde et de destruction. Nous poursuivons, hélas, l'œuvre d'anéantissement commencée par nos pères. Nous, membres du haut lieu, avons renoncé depuis longtemps au dessein de ramener la paix et la sérénité sur la Terre. Nous essayons seulement d'adoucir les souffrances de ceux qui viennent nous consulter, victimes des règlements de compte entre clans ou des nouvelles maladies ravageant le pays Orsite. Je fus le maître d'un jeune guérisseur du nom de Delune, un élément doué, prometteur, qui a disparu avant d'avoir achevé sa formation. J'ai cru un temps qu'il avait reçu une balle perdue au cours de l'affrontement entre les clans du Pégase, de l'Orfraie et du Cyclope. Puis, j'ai eu de ses nouvelles par l'un de ces trappeurs colporteurs qui se promènent de fleuve en fleuve pour vendre leur peau de bête et qui avaient croisé un garçon et une fille sur les bords de ce fleuve, qu'on appelait jadis la Seine.
L'homme s'avança vers la porte de la maison de pierre au mur tapissé d'un lierre épais et noirâtre. Sans la plante parasite, la masure se serait écroulée depuis bien longtemps. L'homme, un trappeur chevelu, barbu, vêtu de cuir et traînant derrière lui une sorte de brancard couvert de peau fraîchement tannée, examina avec attention le vieil herboriste avant de déclarer d'une voix rocailleuse
« C'est vous, Dandra ?»« Ouais, c'est vous, sans aucun doute. Vous dents de devant, dirait celle d'un castor. Dame, j'aimerais pas que vous me mordiez. J'ai rencontré il y a quelque temps un jeune gars appelé Delune. Il m'a dit si je passais dans le coin de vous donner son bonjour. »
Constatant qu'il n'avait rien à craindre de son vis-à-vis, le trappeur renfonça dans sa gaine la lame du large coutelas qu'il portait à sa ceinture.
« Delune ? Il va bien ?»
Delune avait disparu sans donner de nouvelles depuis 3 jours. Dandora en avait conçu une vive inquiétude. Ce n'était pas dans les habitudes de son jeune disciple de s'absenter sans prévenir.
« Dame, les guerres plus épais qu'un chat sauvage, mais il a l'air d'aller à peu près bien. »
« Il vous a dit pourquoi il était parti ?»«
C'est rapport à la fille. »
« Quelle fille ?»«
Une toute maigriotte, elle aussi, d'après ce que j'ai compris, elle est du clan du Pégase. »
À l'heure qu'il est, les membres du Pégase ont tous été exterminés, murmura Dandera d'une voix empreinte de tristesse. Le Pégase était devenu arrogant, sûr de lui, dominateur. La citerne du bouc a changé de main. Elle est désormais passée sous le contrôle du Cyclope et de l'Orfraie. Ça ne devrait guère améliorer les choses. Leur alliance n'est qu'une affaire de circonstances. Ils ne vont pas tarder à s'entretuer comme les autres.
Le trappeur acquiesça d'un hochement de tête.
« Dame, c'est la raison pour laquelle j'ai jamais voulu faire partie d'un clan. Comme je possède rien et que je voudrais pas un clou à la vente aux esclaves, on me fout une paire royale. J'échange mes peaux contre de la nourriture et de l'eau, parfois des vêtements ou du tabac, et ma foi, ma vie est aussi enviable qu'une autre. Faut juste aimer dormir à la belle étoile. Et ne pas avoir peur des bêtes sauvages.
Bah, le feu suffit à les tenir à l'écart.
Parle-moi de Delune.
Vous auriez pas d'abord quelque chose à boire, l'ami ? J'ai fait une longue marche pour monter chez vous et j'ai la gorge en feu.
Un peu d'eau fraîche, ça ira ?
Ma foi, si vous avez rien de mieux. »
Quelques instants plus tard, le trappeur assis à la table de bois devant la cheminée monumentale vidait son troisième verre d'eau d'affilée.
« Ça fait du bien par où ça passe. Donc votre gars, là, Delune, il est tombé sur la fille du Pégase aux prises avec un tueur. Et il a rien trouvé de mieux à faire que de lui fracasser la nuque à coups de serpe. Voilà ce qu'il m'a raconté. Il est arrivé au moment où le tueur s'apprêtait à la violer, et il l'a frappée, sans réfléchir. Elle avait rien de cassé. Il a tout de suite su qu'elle était du Pégase, rapport au tatouage qu'elle portait. Enfin, entre les cuisses, dans sa toison. Il l'a aidé à se relever, à se rhabiller. Elle lui a dit que le tueur voulait la zigouiller, comme tous ceux de son clan. Il le savait. La rumeur courait depuis bien longtemps que les clans de l'Orfraie et du Cyclope s'étaient alliés contre le Pégase pour prendre le contrôle des citernes d'hydrocarbures et qu'ils avaient recruté une armée de mercenaires. Elle a eu de la chance que votre gars passe dans le coin pour cueillir des herbes et qu'il ait entendu les coups de feu. « L'idiot !» rugit Dandera. « Il a violé son serment! Le clan du Haut-Lieu est neutre! Il n'intervient jamais dans les affaires des autres clans !»
« Votre gars, il est jeune, il n'a pas votre sagesse. Et puis, pas toujours facile de garder sa neutralité quand on voit quelqu'un se faire malmener par une brute. Si en plus, c'est une jolie fille... »
Naya, je crois bien qu'elle s'appelle, est partie à la recherche de ses parents dans le noyau. Il l'a accompagnée. Elle a été blessée d'une balle, il l'a soignée, puis ils sont rendus tous les deux à la citerne du bouc pour essayer de retrouver d'autres membres du Pégase. Ils se sont fait tirer dessus comme du vulgaire gibier. Et votre Delune a pris à son tour une balle dans le flanc. »
Dandera frappa du plat de la main le bois rainuré de la table.
« Qu'allait-il foutre là-bas ? La guerre fait rage ! Les gens racontent qu'il y a là-haut plus de 10 000 cadavres en train de pourrir et que la puanteur est atroce !»«
Vous inquiétez pas pour Delune et la fille. Ils ont réussi à semer leurs poursuivants. Ils sont partis vers le nord en direction de l'autre fleuve. C'est là-bas que je les ai croisés. Ils s'étaient planqués dans la grotte aux ours. Enfin... c'est comme ça que je l'appelle parce que j'y ai trouvé le squelette d'un ours. J'y passe toujours 2 ou 3 nuits quand je zone dans le coin. J'ai partagé mon repas avec eux, un gros ragondin que j'ai fait retirer à la broche. Pas mauvais le ragondin, assez facile à chasser, et puis avantageux. Après les avoir mangés, je récupère et vends leur peau. La blessure de votre gars était presque cicatrisée. Faut dire qu'il a l'air de s'y connaître en herbe. J'avais des problèmes de peau, des démangeaisons insupportables la nuit, et il m'a conseillé de passer dessus du jus de l'écorce d'un arbre. « Le corps noyé ?»
Le trappeur tendit son verre pour que Dandera le remplisse.
« Vous avez vraiment rien de plus goûteux ?»«
Oui, le corps noyé, c'est bien ça. Je dois dire qu'il a été rudement efficace, son truc. Je dors maintenant comme un bienheureux. Si c'est vous qui l'avez formé, vous avez été un sacré bon maître. »
Dandera secoua la tête d'un air navré.
« Delune aurait pu et dû devenir un grand guérisseur, le meilleur d'entre nous. » Quelle idée il a eue de secourir cette fille.
Vous savez ce que c'est, non? Vous avez été jeune, vous aussi. Pas toujours facile à contrôler, les hormones, hein?
Quand on s'engage dans le haut lieu, mon ami, quand on prétend soulager la souffrance de ses frères humains, on s'efforce, justement, de dompter ses instincts. On réfléchit avant d'agir.
Peut-être, mais votre gars, là, il est comme tout le monde. À la façon dont il la regarde, je crois bien qu'il est tombé raide amoureux de la fille du Pégase. Oh, pas qu'elle est beaucoup plus que la peau sur les os, mais quand on aime... Ils m'ont parlé de ces cinglés qu'on appelle les cavaliers de l'Apocalypse. C'est pas la première fois que j'entends quelque chose là-dessus. Vous en savez plus, vous ?
Dandera prit un temps de réflexion avant de répondre.
Ils surgissent de temps en temps et se retirent en laissant des centaines de morts derrière eux.
Leurs attaques sont de plus en plus fréquentes. On n'a jamais réussi à en capturer un, ni à en tuer ou à en blesser un. Ils sèment la mort et la désolation et disparaissent aussi mystérieusement qu'ils sont apparus. Il faudrait que les clans cessent de se faire la guerre et s'unissent contre la menace, mais...
Autant demander à un chat sauvage d'embrasser un chien sur le museau, pas vrai?
C'est pas tout ça, faut que je me remette en route. Je compte bien atteindre le sud avant les grands froids.
Dandera se leva dans un concert de craquements. Son corps lui annonçait qu'il ne passerait sans doute pas le prochain hiver.
La vie lui pesait. La mort serait un grand soulagement. Le meilleur des remèdes, sans doute.
« Qu'est-ce que tu vas chercher dans le sud ?»
Le trappeur se leva à son tour et se dirigea vers la porte.
« Ma foi, j'aime bien réchauffer mes vieux os en posant les yeux sur cette immense étendue d'eau qu'on appelle la Grande Bleue.
Merci de ta visite, l'ami. »«
Dame, quand on peut se rendre service. »
La vie en pays hors-site prend parfois des détours inattendus. La faculté d'adaptation des êtres humains est sidérante. Des voyageurs rapportent que des familles ont survécu des années entières sous les décombres d'une ville, sans jamais voir le soleil, se nourrissant de racines et de rongeurs, buvant l'eau qui filtrait des parois, le sang des petits animaux ou leur propre urine. Ni les nuages nucléaires, ni les colères de la terre maltraitée, ni les épidémies, ni la famine ne sont parvenus à souffler ces flammes de vie qu'on croyait pratiquement éteintes. Personne n'imaginait que le clan du Pégase renaîtrait de ses cendres. Les tueurs associés de l'Orfraie et du Cyclope n'avaient pas exterminé tous les membres du cheval ailé. Il en restait quelques-uns, terrés sur les rives du fleuve, fous de terreur et de chagrin. J'ai fait partie de cela. J'ai vécu plusieurs mois comme un fantôme, chapardant de la nourriture dans les maisons, dormant dans les caves en compagnie des rats, me donnant à des hommes dont je ne voyais même pas le visage pour un quignon de pain ou un bout de couverture. Je devenais moi aussi une mutante. Je n'avais plus d'âme, plus d'émotion, plus de sentiments. Je n'étais plus qu'un corps, essayant de se maintenir en vie, ou plutôt un fragment dérisoire que la vie tentait désespérément de prolonger.
« On ne va tout de même pas rester toute notre vie dans cette grotte !»
Naya ne ressentait pratiquement plus rien de sa blessure. Les herbes de Delune avaient accompli des miracles.
« Pourquoi pas, Naya ?» répliqua Delune. « On n'est pas si mal ici. On a tout ce qu'il faut. Il nous suffit d'aller dans les environs pour trouver des plantes et de la nourriture, et puis tu comptes aller où ?»
Elle l'observa d'un regard en biais, et lui trouva toujours le même charme avec ses longs cheveux maintenus par une tresse de cuir, sa barbe clairsemée, ses yeux clairs, sa peau légèrement hâlée et son air de jeune sage. Il portait un pantalon et une tunique usée, grossièrement raccommodée, et des bottes de cuir si fatiguées que leurs semelles bâillaient à fendre l'âme.
« Les grands froids ne vont pas tarder à descendre, on n'a pas de vêtements chauds ni de couverture, »
argumenta-t-elle.
« Si on suit la rive du fleuve, on finira tôt ou tard par tomber sur une agglomération.
On peut se protéger du froid en faisant du feu. Et puis je te rappelle que nous ne sommes plus sous la protection d'un clan.
Et alors? On se débrouillera, j'ai un flingue, non?
Il te reste combien de balles?
3.
Mais on se débrouillera pour en trouver d'autres. Tu pourrais te faire payer pour donner des soins. » Delune tiqua. Il y avait certainement des clans d'herboristes dans les autres agglomérations. Il ne le verrait pas arriver d'un bon œil.
« Si tu crois que les autres me laisseront m'installer comme soigneur, tu te fourres le doigt dans l'œil. »
Naya évacua son exaspération d'une longue expiration.
« Des fois, t'es vraiment chiant, Delune. »«
Des fois seulement ?» Naya répondit d'une grimace à son sourire narquois.
« Moi, si je reste dans cette grotte, je vais devenir cinglé. »
Delune glissa sa serpe dans la besace de cuir qui ne le quittait jamais. Il ne savait pas si les plantes coupées par une lame souillée de sang humain conservaient leurs propriétés curatives. Il n'était toujours pas revenu de la détermination, de la violence avec lesquelles il avait planté le fer dans la nuque du tueur.
« À propos de la grotte, elle est beaucoup plus grande qu'on ne le croyait, » fit-il. « J'ai trouvé l'entrée d'une galerie par là. Je l'ai remontée sur environ 3 kilomètres, puis je suis revenu sur mes pas.
Pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout ?
Je pensais qu'on pourrait le faire ensemble, que ça t'intéresserait. »
Avoue plutôt que t'as eu la trouille.
Des fois, c'est toi qui es chiante, Naya.
Elle se leva et le fixa avec effronterie. Elle ne lui avait pas encore demandé son âge. Elle estimait que, malgré ses efforts pour paraître plus vieux, il n'avait pas dépassé les 18 ans. Il l'avait sauvé d'une mort atroce en tuant son agresseur et en violant son serment de guérisseur, mais la pensée qui la troublait le plus, c'est qu'il l'avait vue nue, sans défense, et qu'il n'en avait pas profité.
Il n'y a pas de mal à avoir la trouille. Moi, je l'ai au ventre depuis que je suis né.
Imagine que je me sois perdu dans cette galerie. Il vaut mieux qu'on soit le plus possible ensemble. À deux, on augmente nos chances de survie, c'est mathématique.
Ouais, si le marchand de peau avait voulu nous étrangler pendant notre sommeil l'autre jour, on n'aurait pas pu l'en empêcher, même à deux.
Dandera dit toujours que la méfiance va de pair avec la confiance.
Faut que tu apprennes à être confiante, Naya.
On voit bien que t'es pas une fille.
Enfin, je crois pas.
Comment ça, tu crois pas?
Tu te comportes pas toujours comme un garçon. Enfin, pas comme les garçons que je connais.
Comment est-ce que je suis censé me comporter?
Je vais quand même pas te le dire. Tu trouveras tout seul si t'es un vrai garçon. Allez, emmène-moi dans cette galerie. On ne savait jamais quelle tuile allait vous tomber dessus dans le pays Orcite, particulièrement hors des agglomérations. Les clans, au moins, offraient un semblant de sécurité, de protection. Les premières attaques des cavaliers de l'Apocalypse avaient soufflé les fragiles flammes d'espoir qui éclairaient notre nuit perpétuelle. Un ennemi mystérieux, insaisissable, avait décidé de nous exterminer. La mort se terrait dans la moindre faille, derrière le moindre buisson, le moindre tronc d'arbre, le moindre rocher. La galerie s'étranglait par instants, mais elle restait praticable malgré les éboulis, les affaissements et les failles. Ils avaient parcouru une distance que Delune estimait à 7 kilomètres. Il avait proposé à plusieurs reprises à Naya de se reposer. Elle avait refusé, puisant dans ses ultimes réserves d'énergie pour ne pas lui donner le spectacle de sa faiblesse. De temps à autre, un bruit d'écoulement brisait le silence oppressant qui régnait dans les entrailles de la terre. Exténuée, Naya s'assit enfin sur un rocher. Elle eut besoin d'un long moment pour reprendre sa respiration.
« Ça fait combien de temps qu'on marche, putain ?»«
On se repose un peu, si tu veux. »«
Tu parles d'une balade. On voit que dalle là-dedans. »
Un murmure prolongé, lugubre, s'insinua dans l'obscurité.
« C'est quoi ça ?»
souffla Naya. Delune se concentra sur le bruit.
« Probablement le vent. »« Il n'y a pas de vent dans des galeries souterraines. »«
Des courants d'air, si. » Elle tira le pistolet de sa ceinture et déverrouilla le cran de sûreté.
« Ton flingue servira pas à grand-chose dans cette obscurité, » objecta Delune.
« J'ai encore jamais vu quelqu'un tuer un courant d'air. »«
Tais-toi ! Écoute !»
Le murmure se rapprochait, avec une régularité inquiétante.
« Alors, tu persistes à dire que c'est le vent ?»
chuchota Naya. Il se concentra sur le bruit sans réussir à l'identifier.
« On dirait qu'il y a quelqu'un. » « Quelqu'un ou quelque chose, une bête peut-être ? Un ours ?»
Delune secoua la tête. Une bête ne ferait pas autant de bruit.
« On fiche le camp ?»
« Je croyais que c'était moi le trouillard. » Naya lui lança un regard noir.
« Putain, Delune ! C'est vraiment pas le moment de jouer les susceptibles ! Je te l'ai déjà dit, je vis avec la trouille depuis que je suis né, et je n'en ai pas... »
Elle s'interrompit, les yeux agrandis par l'effroi.
« Merde ! Ça se rapproche encore ! On se tire !»
Delune la retint en lui posant la main sur l'avant-bras.
« Attends, je ne sens aucune agressivité. Plutôt de la souffrance, comme une supplique. »
Elle se dégagea avec vivacité, troublée par le contact chaud, presque brûlant de sa paume.
« Comment tu peux sentir ce genre de truc ?»
Dandera m'a appris à voir l'invisible, flairer l'inodore, entendre l'inaudible, palper l'intouchable. Elle se releva et le tira par la manche.
« Moi, ma peau me crie qu'on doit dégager au plus vite. Viens !» J'ai vraiment pas envie de finir dans l'estomac d'un putain de monstre !»
Il résista à sa traction. « Si tu arrêtais de te laisser déborder par tes pensées, tu réussirais peut-être à te servir correctement de tes perceptions. » Le murmure enflait dans la galerie, accompagné cette fois d'un claquement.
« Merde de lune !»
souffla Naya.
« Tu fais chier avec tes perceptions. J'ai pas l'intention d'attendre que ce truc nous tombe dessus. C'est peut-être un cavalier de l'Apocalypse. » « Encore un instant, s'il te plaît. Je te répète que tu n'as rien à craindre. » Tes fameuses perceptions t'ont pas empêché de te prendre une balle dans le flanc. »
Il eut une réaction inconcevable pour une fille du Pégase, habituée depuis sa tendre enfance à côtoyer le danger. Il sourit. Dandera prétendait que j'étais parfois un peu distrait. C'est le moment ou jamais d'apprendre la confiance, Naya. Naya braqua son pistolet dans la direction d'où venaient les bruits.
Putain, je vais crever de trouille, oui !»